Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h48, les grands débats du matin, ce matin, avec Arlette Chabot et Philippe Bilger. Vos appels 0826-300-300, on va revenir sur le congrès des LR.
Le congrès des LR, Cécile, on le disait en fait tout à l'heure avec toutes ces questions, parce qu'il y a quand même, on dit qu'il n'y a pas de suspense, mais après tout, attendez, on n'est pas dans le secret de l'isoloir. Enfin là, c'est pas de l'isoloir, puisque c'est on appuie sur un bouton. Hein, donc d'ailleurs, j'espère que tout est bien contrôlé. Là, on n'appuie pas deux fois sur le bouton, en fait, pour les LR, mais ne s'est pas joué, même si les grands ténors ont appelé, c'est-à-dire les grands ténors Michel Barnier, Xavier Bertrand, et puis Philippe Juvin, l'autre candidat qui arrivait à 3% derrière Philippe Juvin. Bon, il savait qu'il avait peu de chance, mais c'était une candidature pour se faire un peu entendre également. Ils ont appelé pour Valérie Pécresse. Donc, si mécaniquement il y avait report, ça ferait 75% pour Pécresse et 25% pour Ciotti. Mais ça ne se passe jamais comme ça. On va revoir ça d'ailleurs dans un instant. Juste avant ça, Philippe Bilger.
Bonjour Philippe.
Patrick, bonjour Cécile.
Bon, avant de parler de ce congrès...
Bonjour Arlette.
Ah, oui, voilà. J'ai failli partir, Philippe, j'étais trop triste.
Il y a en fait deux choses, évidemment, dans le monde judiciaire. Et vous, l'ancien magistrat, procureur, ça doit vous interpeller. Il y a d'abord les fortes tensions entre le garde des Sceaux et les procureurs, là, à la suite d'une petite révolte des magistrats. On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a cette affaire quand même assez étonnante, qui se déroule également aussi dans les médias, de la judocate Margot Pino, hein, c'est ça, qui a été agressée, en tout cas c'est bien ce qu'elle dit, puis elle porte des stigmates, par son compagnon entraîneur. Ça s'est passé le week-end dernier, et ils ont été, ils sont passés en comparution immédiate. Il y a un appel maintenant du parquet, parce que lui a été relaxé. Déjà sur le fait que cette histoire, parce qu'on dit souvent que la justice est lente, et là pourquoi il y a eu cette comparution immédiate, Philippe, c'était normal, logique?
Moi, ça ne m'a pas choqué, et entendons-nous bien, Patrick, je regarde ça de l'extérieur tout de même. Cette affaire a pris une importance judiciaire et médiatique considérable. Il n'y avait rien de choquant dans le choix de la comparution immédiate. Dans la mesure où les deux versions semblaient figées, il était naturel pour Aléfine de faire passer l'affaire en comparution immédiate. Et il me semble qu'au regard de la contradiction absolue des deux versions, eh bien, le tribunal a choisi de considérer qu'il y avait un doute et a relaxé l'entraîneur. Le parquet a fait appel, comme vous l'avez dit, mais le plus surprenant, à mon avis, c'est le fait que le débat judiciaire se continue médiatiquement exactement à partir des mêmes argumentations.
Oui, mais alors Philippe, ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, comparution immédiate, donc ça va vite, hein, bien sûr, il y a les arguments des uns et des autres. Est-ce que l'enquête a été suffisamment bien menée? Est-ce que ça a été... parce que, pour le coup, ça a été mené quand même rapidement, quoi. Et est-ce qu'il débouche à cette décision où la magistrate, puisque c'était une présidente du tribunal, dit il y a relax, d'un côté, parce qu'il y a un doute. Elle a un doute sur les versions des deux protagonistes. C'est ça, en fait, hein.
Alors, il sera intéressant de voir, en effet, si, lors de l'appel, les magistrats répondront à la demande de l'avocat de la victime, entre guillemets, pour voir si des... si des investigations complémentaires sont nécessaires. Il est évident que si on reste exactement dans la situation des antagonismes tels que le tribunal les a appréhendés, je crains que la logique judiciaire entraîne la confirmation de la relaxe. Mais j'espère qu'on pourra trouver des investigations qui permettront d'apporter plus de crédibilité à l'une des thèses qu'à l'autre.
Oui, c'est ça. Sauf que ça va être long, là, maintenant, quoi. C'est ça, c'est-à-dire...
Ah ben, en tout
cas,
plus long.
Ce qui est étonnant, c'est-à-dire, là, c'est extrêmement rapide, et alors maintenant, l'appel, dans combien de temps, Philippe ?
Oh ben, je ne sais pas, Patrick, c'est de l'ordre de 8 à 1 an, dans le meilleur des cas, me semble-t-il.
8 mois, 1 an ? Ah oui.
Oui, à à moins qu'on fasse un sort particulier à cette affaire et qu'on appelle, on précipite le mouvement. C'est possible.
Bah oui, parce que c'est étonnant d'un côté une telle rapidité et ensuite une telle lenteur, quoi. Arlette Chabot,
c'est un peu le propre de la justice.
D'accord. Donc on va y revenir. D'un mot, Arlette, peut-être, non ?
C'est justice médiatique, justice dans la cour de justice, avec un ministre ou une ministre qui prend un peu position quand même, qui a l'air effectivement de donner raison plutôt à l'athlète qu'à son mari, à la jeune femme plutôt qu'à son mari. Donc ça, c'est un peu troublant, parce qu'il y a une semaine, on parlait de Nicolas Hulot, du soutien apporté en 2018 au ministre par le Premier ministre, le Président de la République et tous ses collègues. Là, on voit que dans sans doute un souci tout à fait légitime, d'ailleurs, de protéger les femmes qui sont victimes d'agressions, la ministre des Sports est allée, plus vite, effectivement, que la justice. Elle a déjà rendu la sentence de l'appel.
C'est
elle qui est victime.
Ouais, c'est vrai. Alors que bon,
c'est vrai qu'on en fait parole. C'est toujours la même histoire, toujours le même problème pour les violences.
Bien sûr. Philippe, d'un mot aussi, mais que se passe-t-il là justement dans le monde de la justice avec les magistrats? J'ai vu qu'il y avait des fortes tensions entre le garde des Sceaux et les procureurs, et qu'il y a eu une mini révolte entre guillemets.
A fait même, à mon avis, davantage, Patrick. Il y a quelque chose de surprenant. Si je peux faire un parallèle, rappelez-vous, début 2007, les magistrats sont traités de petits pois. Apparemment, il n'y a aucune révolte de la part des magistrats contre Nicolas Sarkozy. Ensuite, il y a eu des problèmes, je l'admets, mais sur le champ, aujourd'hui, il y a une fronde, plus que ça, considérable de la moitié des magistrats qui ont signé une tribune déplorant le manque de moyens et donc le risque d'une justice qui n'est pas de qualité. Je ne suis pas forcément d'accord avec le texte, mais je constate que le pouvoir macronien hérite d'une situation judiciaire dont il n'est pas seul responsable, mais dont je pense qu'elle a été aggravée à son détriment par le fait que Emmanuel Macron a choisi un garde des Sceaux dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'était pas animé à l'origine par une grande bienveillance à l'égard de la magistrature. Je pense que ça a aggravé l'incandescence. Nous avons tout de même la moitié des magistrats qui ont signé cette tribune, juges et procureurs, à quelques 4 mois de l'échéance présidentielle.
Merci Philippe Bilger. Allez, dans un instant, on y revient. Et là, je voudrais vous entendre. 0826-300-300. Notamment sur le congrès LR, Ciotti, Pécresse, et puis sur le fait aussi qu'on veut interdire de meeting Éric Zemmour ce week-end à Villepinte. Allez-y.
Appelez-nous. 0826-300-300. On revient dans un instant. Il est 8h56.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h03, merci d'être avec nous. On va continuer les débats avec Arlette Chabot, Philippe Bilger. Et dans quelques instants, on va vous expliquer comment se simplifier la vie parmi toute cette complexité administrative. On a des solutions avec notre invité Gaspard Koenig, philosophe, écrivain, fondateur du think tank Génération Libre, mouvement politique. Et puis ce livre, Patrick, Simplifions-nous la vie.
Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
On va voir ça dans un instant parce qu'il y a des exemples édifiants. Quand les gens veulent monter des sociétés, etc., des structures et tout, ils pensent avoir fait le maximum, et puis ils se retrouvent finalement avec le minimum, si je puis dire, ou en tout cas le maximum d'emmerde, quoi.
Tout simplement quand ils veulent vivre leur vie.
On va voir ça dans un instant, mais on va continuer, et vous aimez aussi la politique, notre débat encore pendant quelques minutes, autour de la finale Ciotti-Pécresse, plus cette histoire aussi autour d'Éric Zemmour, avec une volonté de certains d'interdire le meeting à Villepinte. Arlette Chabot, on le disait en fait ce matin, il y a eu quand même une volonté, hier, à travers le vote des militants LR, de montrer un signe d'une droite plus dure, si je puis dire, non ?
Ils sont comme ça, c'est un très bon indicateur de ce que pensent au fond ceux qui restent encore, les adhérents des Républicains. Alors, est-ce que c'est effectivement un petit noyau, même si effectivement le nombre des adhérents a doublé, parce que ceux qui voulaient participer à ce congrès et à cette primaire, eh bien, effectivement, se sont inscrits. Mais en tout cas, ça donner une idée sur ce qu'est la droite aujourd'hui, ce que sont les Républicains. Mmh. Bah oui, résolument à droite. C'est le fait, évidemment, de la réaction ou la volonté de combattre Emmanuel Macron, qui est franchement pas très fort sur ces sujets oui. régaliens. C'est aussi la réalité des faits, les violences, l'insécurité, l'immigration non maîtrisée, et une espèce de libération aussi de la parole, à l'image, effectivement, d'Éric Ciotti, mmh. qui, par exemple, fait du grand remplacement. Mmh. La grande théorie d'Éric Zemmour, il l'a fait sienne aussi. Oui. Donc c'est ça, c'est qu'on se lâche un peu, si mmh. je puis dire, chez les Républicains oui. à droite.
Philippe Bilger, est-ce que vous avez été surpris par... par cette affiche de la finale, justement.
Il est facile d'avoir une lucidité rétrospective, mais j'entendais beaucoup autour de moi des félicitations à Éric Ciotti pour la qualité de ses joutes lors des quatre prestations médiatiques. Et il est évident qu'il répondait à un désir de rigueur et de simplicité que les militants désiraient. Par ailleurs, Valérie Pécresse, comme vient de le dire Arlette, représente un autre arc de la droite. Mais il n'y a pas véritablement de stupéfaction parce que malheureusement, Xavier Bertrand a eu peut-être un raisonnement trop compliqué pour ce qu'il voulait avoir de dur dans son projet. Mais je voudrais surtout, Patrick, si vous le permettez, dire que c'est le retour d'une certaine manière brillant des Républicains dans l'espace politique, dans un monde qui n'est pas formidable à l'heure actuelle. Ça a été des semaines de qualité démocratique.
Bon, tout le monde n'a pas dit la même chose à propos des débats, mais ça, en tout cas, c'est à chacun de juger. Gaspard Koenig, votre regard, vous, sur... alors, Philippe Bilger parlait de simplicité, justement, et vous, le fondateur du mouvement simple, les électeurs ont voulu, en fait, de la simplicité en choisissant des gens qui avaient des positions très claires, quoi.
J'espère d'abord que la simplicité n'est pas le simplisme, mais j'avoue ouais. que j'ai cessé depuis longtemps de m'intéresser à cette famille politique qui a abandonné, au fond, la partie orléaniste, la partie libérale de la droite, l'ancien UDF, qui est passé globalement dans le camp centriste, dans un grand espace...
Macron.
Oui, c'est ça, et plus si affinité. Je note d'ailleurs que Le Point avait posé une question intéressante aux différents candidats des Républicains, préférez-vous Colbert ou Turgot ? Mm-hmm. Et quasiment tous avaient répondu, et notamment ces deux finalistes-là, Colbert. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient préféré la droite interventionniste, la droite qui crée des corporations, parce que c'est ça Colbert, la droite qui exclut les petits artisans qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas certifiés, la droite qui organise, la droite étatiste, à celle de Turgot qui avait essayé de réformer, de libéraliser le pays avant que la Révolution française... ne balaye ses tentatives avortées. Et je pense que ça en dit très très long sur l'état idéologique, doctrinal de cette famille politique.
Oui. Avant vos réactions, maintenant il y a du suspense, évidemment, avant, même si pour l'instant la plupart les trois battus ont appelé à voter pour Valérie Pécresse, voilà, c'est ça, contre Éric Ciotti. Donc, mathématiquement, si on regarde, grosso modo, ils ont fait 75% ensemble, 25% pour Éric Ciotti, donc la logique voudrait que Valérie Pécresse soit élue. Mais attention, ça ne se passe pas toujours comme ça. Tiens, coup d'œil justement un petit peu dans le projecteur, dans le factuel ce matin avec vous, Félix Mathieu. Les résultats des primaires ont-ils déjà été aussi serrés par le passé et que s'est-il passé par la suite ?
Eh bien oui, il y a 5 ans lors des primaires à droite, par exemple, François Fillon était arrivé largement en tête avec 44% des voix devant Alain Juppé, 28%, et puis Nicolas Sarkozy était arrivé assez loin derrière finalement à seulement 20%. La même année à gauche, en 2016, Benoît Hamon avec 36% était arrivé nettement devant Manuel Valls, 31%. Et surtout, ces deux-là avaient laissé loin derrière tous les autres concurrents de gauche. Arnaud Montebourg ensuite s'était rallié pour le second tour à Benoît Hamon. Autre exemple de primaire dans le passé, en 2011 à gauche, François Hollande, 39%, Martine Aubry, 30%. Ils avaient tous deux largement surclassé tous les autres candidats. Alors finalement, pour trouver un exemple de résultat aussi serré au premier tour, eh bien, il faut regarder plus récemment, tout simplement la primaire écologique. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, ça s'est joué dans un mouchoir de poche entre Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Bateau et Éric Piolle.
Oui, si je vous suis, c'est donc toujours le candidat arrivé en tête qui l'a emporté au second tour, alors.
Eh bien oui, dans tous les exemples que je vous ai donnés, le premier arrivé a bénéficié finalement de sa dynamique du premier tour pour l'emporter au second. Dans tous les cas, en général aussi, beaucoup grâce au ralliement des autres candidats éliminés. Or là, effectivement, non seulement l'écart de voix est très resserré au premier tour du vote LR d'hier, mais surtout cette fois, eh bien, c'est la la deuxième arrivée finalement. Valérie Pécresse, qui engrange un soutien unanime de ses ex-concurrents éliminés, soit finalement un schéma inédit par rapport à toutes ses précédentes primaires.
Oui, bon, c'est vrai, mais la messe n'est pas dite. Hein. On parle d'une ammonite, justement, avec Éric Ciotti, c'est-à-dire l'emporter. Déjà, il est en
finale. Benoît Hamon, parce qu'à 6%, il faut toujours rappeler qui était Benoît Hamon.
Ben oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Sauf qu'il avait quand même 36%. Il avait, oui, il avait réussi à devancer assez nettement.
Yannick Jadot l'avait rejoint parce qu'il était haut et il pouvait créer une dynamique. Ça s'est totalement planté.
Oui, complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au 0826-300-300, hein, Cécile?
Et Camille qui est avec nous, qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Camille.
Bonjour Camille.
Oui, bonjour. Je vous appelais plus pour une réflexion.
Oui.
Moi, j'ai voté Pécresse hier. Alors, pourquoi j'ai voté? Bien qu'étant très attirée par Zemmour et Ciotti, je me suis posé la question, qu'est-ce qui sera nécessaire pour lutter contre Macron? Comment arriver à le faire sortir? Qui a derrière lui une équipe suffisante et qui est suffisamment étoffée pour reprendre la France en main, avec toutefois une mesure régalienne que Pécresse a semblé vouloir mettre en application. Donc, après réflexion, bien qu'étant très tentée par Zemmour et Ciotti, je me suis dit, pour mon pays et pour la France, il vaut mieux faire passer Pécresse, qui a plus de chances de recevoir d'autres adhérents. Oui, c'est ça. Peut-être une partie de la gauche, si à Macron, tous ceux qui rejettent Macron ne voteront pas Zemmour et obligatoirement Zemmour ou Ciotti. Par contre, il y a des chances si on veut vraiment rejeter Macron, il y a des chances que Pécresse puisse avoir un certain nombre de votes. Ouais. Et à la réflexion, plus par réflexion que par sentiment, j'ai donc voté Pécresse. Ouais. Par ailleurs, les débats que j'ai vus, c'est vrai que Bertrand... Enfin, au travers de l'écran, on sent la sensibilité des gens et ce qu'ils disent. Et j'ai senti Pécresse et Ciotti très fortement impliqués, pensant ce qu'ils disaient, étant capables chaque fois pas de répéter les mêmes phrases et les mêmes, alors que j'ai senti Bertrand plus vouloir convaincre mais en récitant quelque chose, je sais pas, je l'ai pas senti sincère, mais là c'est uniquement moi qui parle, c'est au travers mon ressenti, hein.
Non mais Camille, c'est intéressant parce que finalement c'est un choix pragmatique, pragmatique. Oui. Vous dites bon voilà, si la droite veut battre Emmanuel Macron, eh bien il faut plutôt voter pour Pécresse qui aura peut-être plus de chances de rassembler. C'est d'ailleurs ce qui se dit beaucoup sur notre question en fait du jour, hein, parce qu'on vous pose la question qui va remporter. Alors vous dites quand même majoritairement Éric Ciotti, mais après dans les commentaires beaucoup disent en fait oui, malheureusement il n'y a que, par exemple Jean, il dit malheureusement il n'y a que Valérie Pécresse pour battre Emmanuel Macron au deuxième tour, où il y a encore Villeneuve qui dit la raison pour Pécresse, le cœur pour Ciotti. Alors il dit mais une élection ça se gagne sur le cœur. Si les LR veulent exister, ils savent pour qui voter. Vous voyez, Arlette Chabot, après cette réflexion de Camille, très intéressante.
C'est intéressant d'ailleurs sur aussi le non-choix de Xavier Bertrand, qui n'est pas juste une sanction à l'égard de celui qui avait quitté le parti en claquant la porte et qui est revenu et rentré dans le jeu. Donc c'est effectivement intéressant de réfléchir à qui peut battre. Alors ça dit, c'est pas gagné, il y a encore du chemin, parce que pour l'instant, aucune enquête d'opinion ne donne le candidat des Républicains, quel qu'il soit, d'ailleurs, c'était les sondages passés, en position d'être qualifié pour le second tour. Ce qui est quand même un léger problème. Donc, ça veut dire tout simplement aussi qu'il y a donc beaucoup de travail, grosse mobilisation, dynamique à créer pour celui ou celle qui sera choisi demain. Aujourd'hui, il vote, effectivement. C'est pas facile, hein, parce que, avec un enjeu très simple. C'est-à-dire que si les Républicains n'ont pas de représentants au second tour, ils vont disparaître.
Gaspard Koenig, sur ce que disait la réflexion de Camille.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est au début, quand elle dit « Ah, tel ou tel va être capable de reprendre le pays en main, de sauver mon pays, de sauver la France. » Et là, cette élection présidentielle, le système même de l'élection présidentielle conduit les gens à croire encore et toujours qu'il va y avoir un sauveur qui va tout redresser, qui va avoir réponse à tout, qui va adresser la police, les questions d'insécurité, les questions d'aide sociale, les questions d'agriculture, mais ils vont toujours être déçus, les gens, toujours et encore, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Un seul homme, surtout dans des sociétés aussi complexes, on y reviendra, que la nôtre, ne peut absolument pas tout régler. Et ce mythe-là, je trouve, est le vice fondamental, au fond, de l'élection présidentielle et conduit à des déceptions continues, éternelles. Mmh. Et je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'au lieu de donner tout le pouvoir à une seule personne en lui demandant de tout résoudre, il faut redonner le pouvoir aux gens, le pouvoir en local, le pouvoir de décision aux plus petites structures pour qu'eux-mêmes prennent leurs problèmes en main.
Oui, c'est ce que vous décrivez justement dans votre livre. On va voir ça dans un instant. Simplifions-nous la vie. Oui, oui, non, mais c'est vrai, on va voir ça dans un instant.
826, 300 des témoignages appels. Des réactions. Yann qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Yann.
Bonjour Yann.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Oui.
Alors, moi je suis encadré, les Républicains.
Oui.
J'ai voté hier, au Congrès, bien entendu. J'ai voté pour Éric Ciotti, d'une, parce qu'effectivement, il a été excellent lors de tous les débats qu'il y a eu, et il a survolé ces débats sur tous les points. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais revoter Éric Ciotti pour une raison simple. Je sens une cabale, moi, contre Éric Ciotti, là où ils ont tous appelé à voter Valérie Pécresse. Moi, j'oublie pas que Jérôme Pécresse, le mari de Valérie, est un proche d'Emmanuel Macron. Que de deux, il est impliqué dans la vente d'Alstom, à la branche énergie d'Alstom, à General Electric, dont la turbine Arabelle. La turbine Arabelle, c'est celle qui va équiper les sous-marins que, justement, l'Australie achète aux États-Unis.
Oui.
Et cette fameuse affaire dans laquelle le président Macron, d'ailleurs, ne s'est toujours pas expliqué.
Oui, voilà. Mais alors, très clairement, Yann, c'est Valérie Pécresse, c'est pas son mari. Alors,
Ceci dit, Valérie a été une fois soutien de Juppé, une fois soutien de Fillon, une fois chiracienne, une fois machin. C'est une girouette.
Ouais.
La girouette, nous ici, on en a une dans le Béarn déjà, elle s'appelle François Bayrou, vous voyez. Alors très clairement, des girouettes, on n'en veut plus.
Ouais.
On n'est pas comme ça. Effectivement, la droite doit reprendre sa place de droite. Mmh. C'est un parti de gouvernement, c'est pas un parti d'opposition molle. Voilà, si on doit être dans un parti d'opposition molle, eh ben qu'on reste au Modem ou à LREM. Voilà, aujourd'hui, très clairement, la droite est un parti de pouvoir. On doit très clairement affirmer nos choix.
Ouais.
Moi, je les assume.
Yann, est-ce que vous n'avez, la réflexion de Camille qui était juste là avant, qui finalement sur le fond, elle pense comme vous, mais en revanche, elle dit moi, je suis pragmatique. Je me dis que la meilleure chance, c'est peut-être quand même.
C'est faux. Alors, je vais vous dire une chose, Patrick Roger.
Oui.
Très clairement, je pense que Éric Ciotti, si il devient candidat de la droite là, et on le saura donc cet après-midi.
On sera.
Je pense qu'il sera en mesure de faire revenir des gens de la droite.
Ouais.
Qui sont partis vers Marine Le Pen et qui sont partis vers Éric Zemmour.
Ouais.
Parce que effectivement, ces gens n'en pouvaient plus d'avoir une droite molle. Et c'est ce qui les a fait partir.
Ouais. Mais est-ce que vous ne croyez pas...
Que Valérie Pécresse, en plus, a claqué la porte en 2017 des LR.
Oui, mais elle a...
Bertrand.
C'est vrai, c'est vrai. Philippe Bilger veut réagir. Restez avec nous, Yann. Philippe Bilger veut réagir.
Très vite, mon cher Patrick. D'abord, j'espère que l'intelligence pessimiste de Gaspard Koenig n'est pas totalement lucide, parce que sinon, c'est un peu déprimant.
Ouais.
Deuxième élément, il est évident que les consignes ne sont pas forcément respectées, mais je crois tout de même que les soutiens qui sont apportés à Valérie Pécresse vont la faire gagner, d'autant plus qu'il n'y a pas un rejet de la part de ceux qui souhaitent Valérie Pécresse d'Éric Ciotti, mais simplement, comme l'a dit Camille, une volonté de choisir la meilleure méthode pour faire battre Emmanuel Macron. Et je voudrais répondre à Arlette Chabot sur le dernier point.
Oui.
Bien sûr, pour l'instant, rien n'est gagné, mais... Enfin, nous allons avoir un candidat des Républicains qui n'existait pas avant. Et un jour, le président sera bien obligé de sortir du double statut officieux et officiel. Et là, la bagarre sera vive. Et mon Dieu, rien n'est perdu pour les Républicains.
Bon, on va clore sur les Républicains. On a passé un petit peu plus de temps. Mais bon, il y a de l'actualité, évidemment. Ça fait partie des préoccupations, en fait, du jour. Et merci, en tout cas, à tous ceux qui ont appelé. 0826-300-300. Promis, parce que j'avais dit aussi qu'on allait évoquer Éric Zemmour avec cette histoire en fait d'interdiction possible ou potentielle demandée. Attendez, j'ai pas fini, Philippe. D'interdiction en fait de la salle de Villepinte. Au 0826-300-300, qui est là?
Oui, on a Daniel qui nous appelle de Bergerac. Bonjour Daniel.
Bonjour Daniel.
Oui.
Oui, Daniel, pardon, vous vouliez réagir sur ce sujet, hein, sur...
Bonjour à tous. Absolument. Oui. Je suis outré. Alors d'abord, indépendamment des idées politiques ou coquettes, d'abord, je rappelle, et vous le savez, que Voltaire disait, je soutiendrai les idées, même si je les défends pas, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Ouais. Deuxième point, ce fameux président du conseil départemental veut interdire en faisant pression sur l'opérateur privé du parc de Villepinte, ouais, au nom d'une diversité. Je rappelle simplement qu'il y a quelques mois, quelques années, dans ce même parc des expositions, un salon des musulmans et de l'islam avait été organisé. Ça n'avait a priori pas gêné ce président. Mais on a d'un côté
avec Tariq Ramadan,
contre ses électeurs, avec Tariq Ramadan, avec ses frères musulmans, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc on voit là encore l'organisation de tous ces gauchistes qui ne peuvent plus rien et n'en déplaisent à Madame De Gouin, qui est toujours en train de vociférer, d'aboyer.
Chacun la parole sur Sud Radio, mon cher Daniel.
Mais il y a manière et manière de le faire, et cette dame prône l'intolérance, qui est assez crasse. Donc voilà, déjà ça c'est dit. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pour le coup, pourquoi ne pas le laisser s'exprimer ? De toute façon, je vois pas pourquoi Mélenchon, si on parle d'extrême, si on veut vraiment caricaturer, pourquoi Mélenchon aurait plus de droits de cité que quelqu'un d'autre ? Donc il faut bien remettre l'église au milieu du village et non pas la mosquée. Et donc dans ces cas-là, laissons-le s'exprimer, voyons-le, et puis les Français feront le tri, c'est tout, pas de problème.
Merci beaucoup Daniel pour votre réflexion. Merci et bonjour à tous les habitants de Bergerac, hein, parce que nous y étions la semaine dernière. Pour les trophées nationaux du cyclisme organisés par la mairie et Pascal Chanteur, notamment. Ça, c'est absolument génial, justement. Et ça rejoint Gaspard Koenig, qui sera avec nous dans un instant. Simplifions-nous la vie. Tout ne se passe pas aussi à Paris, etc. Et que l'initiative et la France, elle vit aussi à travers, en fait, ces territoires et des initiatives telles que celle-ci. Et organiser ces trophées nationaux à Bergerac plutôt que de les faire à Paris, coup de chapeau, en fait, à lui. Parce qu'il y avait des centaines, en fait, de personnes qui étaient là, tous les plus grands champions, Bernard Thévenet, Bernard Hinault, les anciens, mais également les actuels. Bravo, bravo. Et nous étions heureux et fiers d'être derrière et de soutenir cette initiative qui, l'année prochaine, sera, je vous l'annonce, sans doute du côté de Montpellier, mais toujours, effectivement, dans le Sud. Allez, dans un instant, Gaspard Koenig, justement.
Simplifions-nous la vie dans un instant. À tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Comment se simplifier la vie ? La France, presque championne du monde des normes. Il y a des normes et trop de normes tuent la norme. Pour en parler, Gaspard Koenig est avec nous, mais il est toujours là. Philosophe, écrivain, fondateur du think tank Génération Libre, mouvement politique simple, et co-auteur de ce livre, Simplifions-nous la vie, avec Nicolas Gardère aux éditions de l'Observatoire.
Oui, et il y en a des exemples, hein, puisque vous avez fait un tour de France de personnes qui sont un petit peu bloquées, qui n'y arrivent pas pour un tas de choses. Et dans tous les secteurs. Hein. Alors vous commencez par cette histoire de la ferme auberge de Montluçon, où une femme donc qui est dans le fonctionnaire abandonne en fait son poste pour rejoindre en fait son mari et qui est agriculteur et faire ouvrir une ferme auberge. Et alors là, c'est le casse-tête administratif, l'enfer finalement.
Oui, c'est un exemple qui m'avait beaucoup frappé parce que une ferme auberge, c'est bien, ça fait revivre un village où il n'y avait plus d'activité commerciale. Et puis, c'est une activité très simple. Au fond, c'est une des premières activités de l'humanité sédentarisée. On élève des bêtes et puis ensuite, on sert des clients, on cuisine le produit de son élevage. Bon. Et cette chose si simple, si facile à comprendre, si humaine, devient une sorte de casse-tête incroyable parce qu'il n'y a pas de case ferme-auberge dans les structures administratives. Et donc, il faut déclarer l'une en... Je vous passe les détails, hein, parce que c'est toujours très fastidieux. Oui, enfin, l'une en GAEC, l'autre en SARL. Suivant que les produits sont transformés ou non à table, ils sont décomptés de l'une ou l'autre structure. Il faut reporter ses heures de travail de l'une sur l'autre, qui sont limitées pour ne pas perdre les subventions PAC. Enfin, le truc est un imbroglio terrible. Et au fond, le plus rageant là-dedans, c'est pas qu'il y ait des lois, des normes pour que, par exemple, on va payer les impôts, que les règles d'hygiène soient respectées, ça tout va bien. Mais c'est qu'en fait,
c'est le millefeuille en fait.
Personne n'est responsable de système. Ouais. Personne ne peut justifier ça. C'est simplement que c'est tellement complexe que la dame, elle est complètement perdue dans un univers normatif dans lequel personne ne l'aide. C'est-à-dire que l'administration ne vient pas la conseiller en disant il faut faire ci, il faut faire ça. On sait que c'est un.
Alors c'est ça.
Oui, parce qu'il y a les directives européennes. Cela s'ajoute les normes françaises.
Oui, alors les normes françaises ont d'ailleurs la bonne habitude de surtransposer les directives européennes. Donc souvent, on attribue à l'Europe des vices normatifs qui sont en fait dus à notre propre passion réglementaire. Mais ce que je veux dire, c'est à travers cet exemple, c'est que c'est une dame qui finalement passe maintenant 5 heures par jour à faire la comptable d'elle-même, c'est-à-dire à enregistrer ses propres actions, à se valider, à demander des certificats, des autorisations, à s'assurer qu'elle est dans les clous, dans une insécurité juridique perpétuelle. Pour une qui arrive à le faire parce qu'elle est forte, combien abandonnent et ne créent pas leur activité, ou alors décident de la créer, mais hors de toute loi, parce que trop de loi tue la loi, et qu'à un moment donné, les gens passent dans une espèce de semi-anarchie où ils disent, puisque c'est comme ça, je ne demande plus à personne, et puis ma cabane dans mon jardin, je la fais sans demander d'autorisation.
Oui. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire, vous dites finalement, il y a cet autre exemple d'un cultivateur, je crois que c'est sur le plateau des 1000 vaches, qui fait de la production, en fait, de chanvre, donc il peut commercialiser, mais pas produire, ou vice-versa.
C'est ça.
Alors que juste à côté, il dit, en fait, il y a une ZAD qui a été montée par des gens d'extrême-gauche, etc., et eux, on ne les embête pas, alors que moi, on vient tout contrôler, en fait, chez moi. Et finalement, quand on est dans la norme...
Les gens ont le sentiment que la police et l'administration pourchassent les, je mets des guillemets, honnêtes gens qui essayent de faire leur métier, et qu'en revanche, ont peur des voyous. Et ça crée une défiance terrible vis-à-vis de l'état de droit. Parce qu'on dit, au fond, l'état de droit, c'est moi qu'on vient constamment pourchasser alors que j'essaye de faire des choses correctes. Et en revanche, là où il y a vraiment des problèmes, il n'intervient pas. Et c'est très grave, même en termes de démocratie, parce que ça crée une défiance totale vis-à-vis de toutes les structures centrales. Ça explique, je pense, énormément le vote extrême ou populiste, on l'appelle comme on veut, et qui est quelque part une révolte légitime, on peut aussi mentionner les gilets jaunes, contre cette espèce d'avalanche absurde qui enferme les gens dans ce que le sociologue Max Weber appelait une cage d'acier. La cage d'acier d'une réglementation qui aujourd'hui est trop intrusive, trop détaillée, pour pouvoir simplement s'appliquer, pour avoir encore un sens. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus grave que simplement le fait que la paperasse, c'est ennuyeux. En fait, ça, depuis Paris, c'est ce qu'on se dit. Parce que depuis Paris, chacun a ou peut avoir ou a un copain qui connaît, un expert comptable, un cabinet d'audit, un avocat fiscaliste, quelqu'un dans l'administration qui peut un peu débrouiller ses problèmes. Mais quand on est sur le territoire, on se reçoit vraiment dans la figure ce que les juristes du Conseil d'État dénoncent comme étant l'inflation normative, mais qui se décline sur le terrain très concrètement. Et on est totalement impuissant. Et au fond, c'est une question de, quelque part, de justice sociale, parce que les grosses entreprises, par exemple, s'en sortent très bien. Elles ont des départements de compliance, elles ont des comptables, des juristes.
Bien sûr, voilà. Elles ont des spécialistes partout.
Et donc, non seulement elles assimilent la norme, mais parfois même, elles ont des lobbyistes qui en produisent pour éliminer la concurrence. Mais l'artisan plombier chauffagiste, j'en ai rencontré en Mayenne, parce que j'ai fait donc un long tour de France de la complexité bureaucratique, lui, il est désespéré par le nouveau formulaire CERFA qui vient s'ajouter aux autres, qui s'appelle à lui comme à la grosse boîte, et simplement, il ne peut plus suivre matériellement.
Mais ça devrait être le premier sujet, finalement, aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, ça devrait être le projet numéro un, le sujet numéro un.
C'est mon intuition, c'est qu'on parle toujours un peu des mêmes sujets, des inégalités, de l'insécurité, etc., mais on ne se demande pas quel est le mal, quelle est la racine du mal. Il me semble qu'on est un pays, pour l'avoir beaucoup traversé, formidable, avec, exactement comme vous le disiez, énormément d'initiatives locales sur les territoires, énormément de réseaux de solidarité qui se forment, énormément d'idées nouvelles, y compris en termes d'écologie, qui naissent des villages, des communautés, et qu'on est totalement freiné dans nos initiatives, dans nos activités, par cette espèce de ce qu'il faut bien appeler une sorte d'oppression bureaucratique, et que cette oppression bureaucratique, elle traduit une défiance très forte du pouvoir vis-à-vis des citoyens. Et elle traduit au fond quelque chose de très profond, qui est notre modèle jacobin, vertical, autoritaire, où tout doit venir du haut, où tout doit être décidé par la technocratie, et où on dit toujours que la petite commune, l'individu, la petite entreprise, n'est pas assez intelligente ou honnête.
On oublie l'individu, en fait.
On ne fait pas confiance. Et Perfit avait dénoncé la société de défiance dans les années 70, des économistes Cahuc et Algan en avaient rajouté une couche il y a 15 ans, et je pense que simplifier, c'est vraiment un projet de société, parce que c'est dire on peut se faire confiance, on peut faire confiance aux gens, on peut se faire confiance les uns les autres pour trouver des solutions sur le terrain, pour se parler, pour trouver des compromis. Et c'est au fond un discours complètement opposé à la rhétorique anxiogène du moment.
Allez, on va voir, parce que la vie simple, il y a notamment un chapitre, on peut simplifier en fait un peu les choses. Voilà. Vous allez nous apporter quelques solutions dans un instant. Gaspard Koenig, nous continuons ensemble sur Sud Radio.
Il est 9h32, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Vous trouvez que l'administration est trop complexe? Vous trouvez que dans votre quotidien, il y a trop de millefeuilles administratifs? Et ben, on en parle ce matin avec Gaspard Koenig, qui est philosophe, écrivain. Pour ce livre, hein, Simplifions-nous la vie, aux éditions de l'Observatoire.
Ouais, mais est-ce qu'on peut la simplifier? Puisque on a tellement de normes. Cécile disait tout à l'heure 120 000 normes sociales, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui à simplifier tout cela? Parce que ça va être derrière, il y a quand même, il y a des choses qui servent, quoi, qui sont utiles.
Alors, le constat, tout le monde le partage depuis plusieurs siècles d'ailleurs, parce que Montaigne au XVIe siècle disait déjà qu'il y avait plus de lois en France que dans le reste du monde, et que c'était insupportable, et que la loi devait être plus simple et plus juste et tout ça. Mais on s'est pas contenté de faire ce constat. On a aussi travaillé avec un groupe de juristes en droit public pour proposer une solution aussi radicale que possible, aussi révolutionnaire que possible. Et cette solution, on l'a baptisée projet Portalis. Pourquoi Portalis? Parce qu'on s'est dit, en fait, on l'a déjà fait une fois dans notre histoire, ce travail de simplification. C'était justement après la Révolution française, qui est née aussi de l'imbroglio du droit féodal et des gens qui ne comprenaient plus à quelle juridiction ils devaient se référer, etc. Et Napoléon avait nommé, quand il était premier consul, une équipe de juristes, dont ce Jean-Marie-Étienne Portalis, qui est resté célèbre pour avoir conçu le Code civil, avec comme mission, non pas de réinventer la roue, mais à droit constant, de simplifier le droit. Et quand vous lisez la préface au projet de Code civil de Portalis, il dit en toutes lettres ce mot, il faut simplifier. Simplifier, ça implique bien sûr de laisser une sorte de marge de manœuvre à l'individu, de faire confiance à la raison humaine, il le dit en toutes lettres. Et ils ont réussi. Et en 6 mois, 1 an, aussi parce que Napoléon s'était impliqué personnellement dans ces réunions. Donc ça veut dire que ça demande une volonté politique extrêmement forte de simplifier. Parce que complexifier, c'est faire des compromis, c'est faire un peu plaisir à tout le monde. Ils sont parvenus à un code civil qui faisait 2000 principes, qui était lisible en bon français, et qui est aujourd'hui un modèle pour tous les étudiants en droit. Et ce qu'on dit, c'est, en fait, on peut le refaire aujourd'hui. Si on a cette volonté politique, si on considère que c'est une révolution qui est validée par le suffrage universel. Et ce qu'on propose, c'est non pas, comme on l'entend beaucoup et comme on a essayé de le faire dans chaque gouvernement, et évidemment ça ne marche pas, d'aller regarder quelles normes on enlève.
Oui, la simplification administrative, parce ça, que ça fait quand possible. Même 15 ans qu'on dit à chaque fois, alors là on est en train de
parlé,
simplifier.
J'ai parlé avec tous les héros, si je puis dire, de ce domaine, tous les gens comme Poitrinal, Mandon, Alain Lambert, qui ont passé des années à lutter, qui parfois ont été à la tête de commissions, pour enlever des normes, mais c'est pas possible d'enlever des normes, parce qu'on en enlève une, il y en a deux qu'on rajoute pour maintenir un équilibre, il y en a quatre qui reviennent par la fenêtre. Donc nous, on pose une question inverse.
C'est une vraie révolution, alors.
On pose une question inverse, on dit quelles normes on garde. Ouais. Et donc on fait remonter de tous les codes, de tout ce droit, les grands principes, comme Antoine Lyon-Caen et Robert Badinter l'avaient fait pour le droit du travail, on fait remonter les grands principes, et après on dit, seuls les grands principes ont valeur législative, et tout le reste on enlève. Ouais. Et avec cette méthode-là, on divise par 100 le nombre de normes en France. On promet que le volume du droit peut tenir en un livre. Imaginez ce jour où, après ce travail de fourmi de 1 an, 2 ans, on donne à tous les Français, à tous les foyers, le droit. Compréhensible, lisible, intelligible. C'est au fond le minimum dans un état de droit où nul n'est censé ignorer la loi.
Mais est-ce que ça va, en cas de conflit, justement, libérer un peu les tribunaux? Est-ce que du coup, ça va simplifier aussi tout ce qui peut se passer derrière?
C'est sûr que ça demande un travail de réorganisation de la justice. Parmi les propositions qu'on fait, il y a l'extension des procédures de médiation. Mmh. Et il est assez fascinant de voir qu'aujourd'hui, pour les petits litiges de moins de 6 000 euros où la médiation est obligatoire, ça marche. 75% des affaires sont résolues au niveau de la médiation. Parce que quand vous mettez les gens qui ont un problème de haie trop haute, de chien qui aboie, de nuisances diverses et variées, quand vous les mettez dans une pièce, mais de manière institutionnalisée, avec un médiateur qui est là pour gérer un peu le conflit, eh bien, les gens commencent à se parler, commencent à se comprendre. Et là, ils n'ont plus besoin de la norme, ils n'ont plus besoin de savoir si la loi dit que la haie doit être à 2 mètres, 2 mètres 50, 1 mètre 5, 1 mètre 5.
Parce que
la norme,
c'est un conflit.
Voilà, exactement. Et en fait, la norme, c'est quand on a déjà perdu, en fait, qu'on se réfère à la norme. Eh bien, ils trouvent une solution intelligente en être humain. Et oui, ça demande un peu d'optimisme, ça demande un peu de foi dans la nature humaine, ça veut dire... Si le processus
est de bon sens,
est bien encadré, est de bon sens. Et le bon sens, c'est quelque chose de, je pense, fondamental dans cette idée-là. Parce que les gens, ils sont révoltés quand une norme absurde ne s'applique pas. Ils sont révoltés parce que ça va à l'encontre du bon sens. Et le bon sens, c'est quelque chose de très profond. Descartes en parlait. Et c'est justement ce qu'un robot ne pourra jamais avoir, le bon sens. Yann Lequin, qui est un des grands spécialistes d'intelligence artificielle, dit toujours, l'intelligence artificielle, il y a une chose qu'elle n'aura jamais, c'est le bon sens. Le bon sens, qu'est-ce qui nous rend humains?
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas à la veille, justement, de cette intelligence artificielle qui va nous encercler, j'utilise justement ce terme, nous encercler totalement, et qu'il y a tellement, en fait, d'articles que pour n'importe quoi, on ira avec l'intelligence artificielle encore plus plus vite que les avocats, que les magistrats, que les juristes, chercher en fait des petits articles, et on ne va pas simplifier en fait les choses.
Bah, je pense que justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire dire, comme c'est très complexe, on va demander à des intelligences artificielles d'interpréter le droit pour nous,
absolument.
Et là on va devenir nous-mêmes robots en fait. Et c'est pour ça que je plaide pour ce travail national, ce grand projet de société de simplification. Je pense que si le prochain gouvernement passait 5 ans à faire moins plutôt que plus, il aurait bien davantage rendu service au pays que d'inventer encore un énième plan de transformation qui rajoutera des couches de bureaucratie à celles qui existent déjà. Et je pense que voilà, c'est un peu c'était le message de Pompidou quand il disait de manière un peu brutale, arrêtez d'emmerder les Français. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de la phrase.
Ouais.
Quand il dit, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux.
Ouais, ouais. Mmh. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on va se heurter aussi à beaucoup de lobbies, d'intérêts, à la fois chez les juristes, hein, je le disais aussi, mais aussi dans un tas d'autres secteurs où on se réfugie finalement derrière ces normes, quoi. Et puis on les a tellement accumulées. Quand je vois l'exemple, par exemple, de la personne qui va aller chercher de l'argent liquide, qui vous dit où je voudrais prendre de l'argent liquide en fait à la banque et retirer ce que je veux et j'en fais ce que je veux. Eh ben non, ce n'est pas possible. Donc on a inclus ça aussi dans les règlements de la banque. Donc c'est difficile après de les changer, quoi.
Oui, c'est difficile, mais c'est pour ça que ça doit être un projet de société. Et je dois dire que ce projet ne pourra se faire qu'avec l'administration. C'est pas du tout un projet contre l'administration. Je propose pas d'ailleurs de réduire le nombre de fonctionnaires. Je propose de les remettre sur le terrain, dans des maisons du citoyen où ils auront un pouvoir décisionnaire au plus petit niveau. Et aujourd'hui, les fonctionnaires eux-mêmes font ce constat. On a travaillé avec des conseillers d'État qui font des rapports tous les 5 ans publiés par le Conseil d'État en disant « c'est pas possible, l'inflation normative, ça tue l'État de droit, bon, ça crée de l'injustice, etc. » Les fonctionnaires de terrain, les policiers, les infirmières, les infirmiers, les profs nous envoient des messages parce qu'on avait ouvert un site où les gens pouvaient poster leur histoire, mais nous envoient des messages aussi parce qu'eux-mêmes vivent la même chose. Et donc, l'administration aussi cherche du sens dans son métier. Le sens, c'est d'être au plus proche du citoyen pour véritablement l'aider et pour avoir aussi une marge de décision, une marge d'autonomie dans laquelle le fonctionnaire peut dire ça je valide, ça je valide pas.
Sur un sujet qui intéresse les Français, c'est la voiture. On comprend plus rien en fait. Les Français savent plus ce qu'ils doivent acheter comme voiture, ils savent plus s'ils doivent rouler à 30, dans une ZFE, pas dans machin, pas dans les villes. Ça aussi, ça participe aussi et ça a une incidence forcément sur les vendeurs de voitures. Et parce qu'il y a trop de normes, parce qu'on ne sait plus à quel moment on aura le droit d'utiliser du thermique, plus du thermique. Est-ce que ça non plus, il y a un moment donné, il ne faut pas simplifier tout ça.
C'est Pompidou justement encore lui qui disait, si vous voulez réduire le nombre d'accidents de la route, il faudrait d'abord simplifier le code de la route.
C'est ça.
Et je vais vous donner un exemple un peu extrême. Alors, je fais exprès de pousser le raisonnement. Et l'exemple un peu extrême, c'est celui des routes nues, qui ont été, les naked roads, qui ont été inventées aux Pays-Bas, où ils avaient des problèmes d'accidentologie dans les zones périurbaines. Et ils se sont dit, bon, il y a deux méthodes. Soit on bride tout, on met des caméras partout, on met des interdictions partout, et puis effectivement, ça réduira le nombre d'accidents. Soit on fait, et c'est ce qu'ils ont tenté, exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on enlève tout. On enlève tout interdit. On enlève même les bandes au sol dans la rue, les bandes blanches. On fait juste une espèce de grande plaque de bitume.
Débrouillez-vous.
Où les gens doivent prendre leurs responsabilités, quelque part. Tout d'un coup, ils arrivent sur une route nue. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que ça marche. C'est-à-dire que le taux d'accident se réduit, parce que quand les types arrivent là-dessus, tout d'un coup... ils comprennent qu'ils ont en main un engin qui va vite.
Ils sont livrés eux-mêmes.
Voilà. Et ils commencent à regarder un peu partout. Alors, ça peut pas se faire partout. Là, c'est des zones périurbaines
spécifiques.
Voilà. Ouais, ouais. Mais ça donne un peu la logique de ce genre de raisonnement. C'est-à-dire, vous créez institutionnellement l'espace pour que les gens se responsabilisent et exercent leur jugement.
Bon, vous auriez pu l'appeler arrêtez de nous, voilà.
Oui, c'est un peu ça.
Mais en tout cas,
on l'a déjà pris. Mais...
c'est subliminal.
Simplifions-nous la vie, Gaspard Koenig et Nicolas Gardère, c'est aux éditions de l'Observatoire. Vous vous lancez dans la course à la présidentielle aussi, hein?
En tout cas, je me lance en politique puisque à travers cette œuvre de récolte des normes, puisqu'on a fait donc une grande campagne de terrain pour aller voir les gens
Tour
sur
de
le
France,
territoire,
ouais.
pour comprendre ce qui se passe. On s'est dit, on peut pas laisser ça comme ça, on peut pas faire une énième œuvre de think tank ou une bonne proposition qui sera encore lettre morte, parce que ça fait 10 ans que je fais ça dans le débat public et j'ai compris qu'à un moment donné, il faut peser, il faut avoir des troupes pour avoir véritablement de l'influence. Et donc, on a fondé un parti politique. Ce parti s'appelle Simple, vieplussimple.fr. Et il doit pousser ce sujet parce qu'à partir de ce sujet, on peut tirer énormément de fils qui conduisent à énormément de réformes. Par exemple, pour simplifier le millefeuille territorial, il faut donner plus d'autonomie locale, d'autonomie démocratique, d'autonomie fiscale aux collectivités. Donc, en fait, on peut presque aborder l'ensemble des sujets de politique publique à travers ce prisme très puissant est très facile à comprendre au fond de la simplification. Et donc, nous essayons de forger une œuvre politique crédible, qui quelque part sera le seul parti à revenir ou à dénoncer explicitement le paradigme jacobin. Oui. C'est-à-dire, nous sommes un parti de décentralisateurs radicaux. Dans ce grand espace du centre, nous pouvons faire des propositions qui sont des propositions vraiment révolutionnaires. Et maintenant, nous structurons nos troupes sur les territoires pour
on va suivre ça. Merci Gaspard Koenig.
Merci.
Allez, nous on poursuit dans un instant. Bah, on va rester un peu dans ce registre, hein, dans la France à vos côtés, comme chaque matin. Cécile,
c'est la médiation animale, la relation de l'homme et de l'animal, très important dans le social, dans les maladies, dans tout un tas de choses. Vous allez voir, pour les enfants, pour les adultes, on en parle dans un instant avec nos spécialistes. À tout de suite.